bout du monde, Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde, l'émission qui goûte, questionne, interroge, s'intéresse à ce qu'il y a dans nos marmites, ce qui se mitonne et ce qui se fredonne. Dans ces temps confinés, que l'on soit à Dakar, Paris ou Montréal, nous n'avons jamais autant cuisiné et retrouvé le goût de ce partage-là et de cette transmission. Notre invitée a la cuisine et la curiosité qui coulent dans les veines. Elle cuisine, partage sur les réseaux sociaux et sur son blog. Bonjour Ndaye Issé Toumbaye.
Bonjour.
Vous êtes sénégalaise, cuisinière, auteure d'un premier livre, Saveurs subsahariennes, trésors et recettes d'Afrique. Alors racontez-nous, à l'origine de ce blog, Issé Tou Cuisine, quelle était l'idée?
Oui, donc mon blog Issé Tou Cuisine, le but en fait, c'est quand j'ai fait ce blog-là, c'était surtout de faire, en tout cas pour, d'un côté, faire découvrir ceux qui ne connaissaient pas les aliments d'Afrique, principalement du Sénégal, parce que j'avais remarqué, en tout cas quand j'étais étudiante en France, que beaucoup, quand on parlait des cuisines africaines, les gens disaient « Yassa, ah, je connais le Yassa, je connaissais le Maghrib ». Mais je restais sur ma faim. Quand j'avais envie de parler d'autres aliments, les gens ne connaissaient pas. Et après, il y avait l'inconnu, le manque de connaissances, mais c'était surtout le fait qu'ils n'avaient pas envie de goûter. Je vais donner un exemple. À mon pot de départ de stage, j'avais fait du tiakri.
Du tiakri, donc là, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est que le tiakri en deux mots?
Le tiakri, c'est de la semoule de mil, donc des granulés de mil qu'on fait cuire à la vapeur et à laquelle on mélange du yaourt ou du lait caillé. C'est un dessert sucré qu'on mange beaucoup en Afrique de l'Ouest.
Donc, un tiakri.
Oui, un tiakri. Donc, j'avais proposé un tiakri. Enfin, je m'étais dit, j'allais faire un repas, un petit déjeuner type sénégalais. Donc, j'avais fait un tiakri, j'avais fait des pastels, j'avais fait du bissap, j'avais fait d'autres petits plats. Et les gens, la plupart ont goûté le bissap parce que ça sonnait joli, fleur d'hibiscus.
Ouais.
Ils ont goûté. Le reste, tiakri, je pense qu'il n'y a personne qui a voulu goûter. Les pastels, ça leur rappelait quelque chose qu'ils connaissaient, donc ils ont goûté. Mais quand je proposais en disant « mais essaye », ils disaient « non, non, c'est bon, je pense que ça va aller, on n'est pas des aventuriers ». Il y avait cette frustration-là de dire « mais j'ai essayé de goûter, j'avais envie de partager, de montrer ce qu'on savait faire, mais il y avait quelque chose qui bloquait les gens ». Et c'est de là que je me suis dit « mais comment je peux faire pour que les gens, en regardant nos plats, et envie de goûter, comment je peux attirer la curiosité ? Et je comprends qu'on ne connaît pas, on peut se dire « je ne vais pas goûter » ou voilà. Mais moi, mon objectif à partir de là, c'est de dire « voilà, moi j'ai envie que les gens aient envie de goûter à nos plats ». Donc ça, c'était le premier choc que j'ai eu.
Oui, choc, le mot est bien utilisé parce que vous êtes bienveillante quand vous dites qu'on a le droit de pas goûter en même temps que vous faisiez un repas, vous invitiez des gens à partager culturellement. Ça a dû être pris comme une claque un peu, non?
Oui, je suis gentille, mais oui, j'étais un peu déçue et triste même parce que j'avais passé une partie de la nuit à cuisiner et ça m'a fait de la peine. Mmh. Mais j'ai mis ça sur le coup du manque de connaissances, à l'époque, c'était il y a plus de 5 ans, les cuisines africaines n'étaient pas aussi connues que maintenant. Donc les gens connaissaient que les plats qu'ils ont l'habitude de voir dans les restaurants ou à la télé, le reste, ils ne connaissaient pas. De ma part aussi, c'était assez risqué de proposer des plats qu'ils ne connaissaient pas.
Bah, c'est vous que vous présentiez en même temps.
Oui, mais j'avais envie de vraiment faire découvrir ces saveurs-là. Et c'est de là que j'ai envie de faire un blog sur la cuisine, les cuisines africaines, mais principalement la cuisine sénégalaise. Et l'autre partie, parce que pour moi, il y a deux motivations vraiment pour mon blog. Il y a le souci de faire découvrir aux gens nos saveurs, mais aussi pour ceux qui connaissent vraiment ces saveurs-là, la fierté de se dire « Ah, tenez, on a des trésors ». Pour moi, c'était important. Et ce deuxième choc-là que j'ai eu, c'est que je suis tombée sur un livre qui n'avait pas vraiment de couverture, donc c'était un vieux livre vraiment un peu déchiré sur le côté que j'ai retrouvé en fouillant dans les affaires. Et c'était, je crois, qu'une amie de ma sœur qui lui avait offert ça. Et sur ce livre, le livre s'appelait « Consommer local tous les jours ».
Oui.
Et ce n'était pas vraiment un livre, c'était un rapport financé à l'époque, je crois que c'était vers les années 1990, par l'État du Sénégal, le ministre de l'Agriculture.
Oui.
Qui avait financé c'est une sorte de campagne qui avait rassemblé des femmes qui faisaient de la transformation des produits locaux et on leur avait demandé de fournir chacune une ou deux recettes. Donc, ils avaient fait une sorte de livret avec ces recettes-là.
Génial.
Il présentait, c'est vraiment le livre là, c'est le livre qui m'a vraiment donné envie de faire ce que je fais là. Et donc, en feuilletant le livre, je me disais, mais waouh, je savais pas qu'on pouvait faire tout ça avec ça. Ah, waouh, j'ai découvert la farine de niébé, je savais même pas qu'on avait ça. Moi, je connaissais que le niébé,
Le
le
haricot,
haricot,
oui.
mais pas sous forme de farine. J'ai découvert qu'on pouvait faire mille et une choses avec la farine de mil. J'ai découvert tellement de choses. D'ailleurs, j'aurais fait un clin d'œil dans mon livre tellement ce livre m'avait marqué. Et donc, après avoir feuilleté ce livre-là, je me suis dit, mais en fait, mais on a tout. On a tout ce dont on a besoin en Afrique, au Sénégal. Je ne savais pas comment on pouvait faire toutes ces choses-là. Pourquoi on n'est pas au courant? On ne nous a jamais dit qu'on pouvait faire tout ça.
Pourquoi on n'a pas partagé ces richesses et ces trésors, en fait?
Exactement, c'est ça le mot, c'est richesse et trésor. Et voilà, je suis sortie vraiment enrichie de cette lecture, de ce livre. Et ça a été mon deuxième choc. Là, je me suis dit, bon, là, j'avais démarré mon blog, mais au début, je faisais des plats traditionnels et parfois revisités. Mais j'avais pas encore cette soif-là de dire, je vais faire découvrir les aliments du Sénégal.
Ouais. Alors vous vous êtes dit, je vais passer. En fait, je suis une conteuse et une passeuse de ces histoires-là pour pas qu'elles se perdent.
Exact, c'est ça. J'avais envie de vraiment raconter. C'est surtout que, enfin, je sais pas, il y avait une perte quelque part. On n'a pas assez transcrit ces histoires-là. On n'a pas assez parlé de nos aliments. On nous en a pas assez parlé. Moi, par exemple, c'est en discutant parfois à ma mère que je découvre des choses. Par exemple, du sorgho, elle m'a jamais dit qu'on pouvait le faire éclater comme le maïs. C'est en lui posant la question qu'elle me l'a dit. Et je me dis, sûrement, il y a beaucoup d'autres trésors comme ça. Je suis passée à côté parce que on n'en parlait pas et c'était pas. Il y avait quelque chose dans la transmission qui nous manquait, je pense, qu'il fallait vraiment remettre à jour.
Ndaïsé Toumbaï. Mbaï, ça veut dire quelque chose, je crois.
Mais oui, ça veut dire maman. En Wolof, Mbaï, c'est un nom de famille connu. Enfin, Ndaï Aissatou, c'est un prénom composé. Généralement, Ndaï, c'est le prénom affectif qu'on donne aux enfants à qui on a donné le nom d'une maman. Donc, ça veut dire maman Aissatou, entre guillemets. Mbaï, c'est un nom de famille au Sénégal. Comme on sait, les noms de famille sont classés par les ethnies.
Par profession.
Par exemple, juste en donnant son nom de famille, on peut savoir telle personne vient de telle ethnie, telle personne vient de telle ville ou tel royaume du Sénégal. Et là, en parlant avec mon autre famille, si on regarde, on peut dire mes aïeux étaient des griots, parce que Mbaï, c'était un nom de famille de profession griot, voilà.
Donc vous poursuivez dans la tradition familiale
Donc voilà, donc je respecte,
alors.
puisque je raconte des histoires à travers la cuisine, donc je suis d'alignée.
Ouais. Comment est-ce que vous expliquez justement que cette transmission, pour ce qui est de la cuisine, ne se fasse pas? Est-ce que c'est parce que c'est essentiellement une tradition et une transmission orale et qu'il n'y a pas d'écrit, ou parce que ça fait partie tellement de la vie qu'en fait on apprend au fur et à mesure en grandissant?
Alors, on sait que l'Afrique, entre guillemets, c'est vraiment, on est dans une tradition orale. Par exemple, là, j'ai parlé tout à l'heure des griots qui avaient une place importante dans la tradition orale, donc qui étaient vraiment les historiens, les détenteurs de l'histoire. On sait aussi que les vieillards, comme on dit en Afrique, les personnes âgées aussi, c'était comme des monuments, ils étaient là pour garder la mémoire des familles. Je pense que en changeant le type de famille en Afrique, parce qu'avant on était dans des familles immenses, avec un rôle important qu'avait le patriarche, enfin
Oui, le chef de la famille.
le chef voilà de famille. Il y a eu une coupure dans l'histoire. On a changé ce mode de vie-là. Les familles sont devenues un peu moins importantes. En fait, je pense qu'au cours de l'histoire, on a modifié un peu. Enfin, la tradition orale, comme l'impact que ça avait, c'est parce qu'il y avait telle personne qui avait tel rôle, et ces rôles-là ont été chamboulés. Il n'y avait plus la place vraiment du griot, la place du père de famille, ou la place du vieillard, entre guillemets, comme on disait.
De l'ancien.
Voilà, l'ancien, voilà, c'est le mot le plus juste. Merci. L'ancien qui s'asseyait et qui comptait, qui racontait des choses. Tout ça, il n'y avait plus. Donc là, on a perdu un peu cette transmission-là. Mais même de père, de mère à la fille, la transmission telle que ça se faisait avant, où on s'asseyait, on regardait sa mère cuisiner et on apprenait ça, on n'a plus parce que maintenant, on était dans les cahiers. Enfin, les filles, moi, je sais que Je ne sais pas si je suis curieuse, mais si j'avais juste suivi les cahiers et les cours, aujourd'hui, peut-être, j'aurais pas pu cuisiner comme je cuisine parce qu'on est occupé à faire autre chose. Donc, la modernité, le changement de vie, de mode de vie a fait que cette transmission-là s'est perdue au fil des ans. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des familles éclatées, des enfants qui sont de l'autre côté, comme moi, je suis en France, ma mère au Sénégal. Qui fait qu'on si vraiment on s'y accroche pas, on perd vraiment des informations importantes, on perd cette notion de transmission.
Et ça, c'est primordial pour vous. C'est très important d'être cette passeuse-là et cette conteuse d'histoire.
Oui, pour moi, c'est vraiment important parce que on a vraiment une tradition orale et à un moment, si on ne se pose pas pour écrire les choses, ça finit par se perdre. La traduction orale, elle est vraiment bien. D'ailleurs, là même en entreprise, hein, on a un peu de traduction, même dans la vie courante. C'est ce qu'on appelle transfert de compétences. C'est qu'une personne a des compétences, vient dire à une autre personne, regarde, apprends, et après tu pourras toi aussi reproduire la même chose. Et pour moi, c'est ça aujourd'hui. Il faut se poser
Ouais.
et écrire ces procédures-là pour que d'autres personnes qui n'ont pas la chance d'avoir accès à cette première personne qui détient cette connaissance-là puissent avoir facilement accès à tout ça. D'où l'importance d'écrire, de faire des livres.
D'où votre livre. Ce qui est génial avec votre blog, qui est aussi, alors il est décliné sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, on peut suivre évidemment les recettes, mais ça va bien au-delà des recettes. On a dans la découverte de produits, des femmes également, qui sont à la source de cette ressource. Je pense notamment au fonio, par exemple, dont vous parlez souvent. Je pense également au baobab, au moringa. Quelle est la place des femmes dans les productions de ce type d'ingrédients et d'aliments qu'on connaît finalement assez peu quand on n'est pas en Afrique, qu'on découvre, et peut-être qu'on redécouvre même en étant en Afrique? Quelle est la place de ces femmes et en quoi c'est important pour vous de remettre les femmes au centre?
Alors la femme est importante du début à la fin, je peux dire de la graine du sol à l'assiette, de la terre à l'assiette. Là par exemple, c'est les agriculteurs qui travaillent le sol, toute la transformation de ces aliments-là depuis le début, pendant longtemps, ça a été fait par les femmes de manière artisanale. Là par exemple, si on mange la poudre de baobab, le fognon, même le travail de roulage de la semoule de mil. Le couscous, tout ce travail-là, même les poissons, quand les pêcheurs reviennent, le fait de fermenter le poisson, tout ça, c'est les femmes. Tout ce qui est transformation artisanale, ça a toujours été fait au Sénégal, c'était du ressort des femmes. Ça a toujours été fait par les femmes. Et aujourd'hui, je trouve que c'est important de les remettre au centre de tout cela parce que les industries ont remplacé un peu le travail de ces femmes-là. Et je trouve qu'on a quand même une chance, c'est que dans les cuisines africaines, on a encore la richesse des produits bruts. Et non seulement des produits bruts, mais aussi des produits artisanaux. Donc, c'est important, même si on donne les moyens à ces femmes-là de devenir un peu plus standardisées, de au moins de montrer à quel point ce qu'elles faisaient, c'était énorme. C'est-à-dire la farine de pâte à douce qu'on commence à voir maintenant, elles ont été faites par ces femmes-là, mais il y a des décennies.
Comment? C'est pas tout nouveau.
Non, c'est pas nouveau. Je me rappelle une fois, j'étais allée au salon de l'agriculture et j'étais tombée sur un groupe de femmes qui venaient de Ziguinchor, donc de la Casamance, au sud du Sénégal. Et ces femmes-là avaient un stand, un tout petit stand où elles présentaient les produits qu'elles faisaient, mais depuis le temps de leur maman. J'avais vu de la semoule, du couscous de banane fait avec la banane, le fruit. J'ai vu du couscous avec des noix de cajou, des choses que j'avais jamais vues. Je lui ai demandé, vous travaillez ça depuis combien de temps? Elle me disait, mais depuis non, maman. Donc, ça veut dire que ce travail-là, elle le faisait de manière rustique avec les moyens du bord, mais il y a des décennies. Et aujourd'hui, c'est à la mode. Et ces femmes-là, on les voit plus.
Oui, c'est ça.
On les voit plus, alors que c'est tellement important parce qu'ils étaient là depuis le début. Et d'ailleurs, ça me tenait vraiment à cœur, dans le livre d'utiliser ce genre de produit-là. Que je parle de farine de niébé, parce que je me dis, les gens vont se dire, mais d'où ça vient, la farine de niébé, de parler de poudre de moringa, de parler de ces aliments-là, pour que les gens puissent acheter ces aliments. C'est sûr, quand ça vient du Sénégal, c'est fait par ces femmes, à coup sûr.
À coup sûr, c'est ça qui est
Oui.
extraordinaire. Et c'est d'ailleurs aussi, c'est la démarche de Pierre Thiam, le chef
Exactement.
sénégalais qui est chef à New York, de mettre en avant et ses céréales et cette manière de cuisiner. Alors c'est très drôle parce que depuis le début du confinement en France, dès le début, en fait, il y a eu la question du pain qui s'est posée. Et à Dakar, et en tout cas au Sénégal, on s'est beaucoup inquiété parce qu'il n'y avait plus de pain. Et sur votre blog, vous avez poussé, on va dire, un cri d'indignation en disant, mais attendez, il y a bien d'autres choses que le pain, bien d'autres céréales, et retrouvons nos céréales. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu?
Oui, alors à moi, à chaque fois que je suis indignée, j'écris. J'écris un article, ça me permet de m'exprimer et je trouve que c'est déjà plus efficace. Au lieu de dire aux gens, mais il y a plusieurs céréales, il y a beaucoup d'autres, autant leur montrer tout ce qu'ils peuvent faire avec nos céréales. Et donc, moi, je voyais, les gens commençaient à paniquer, comment on va vivre, survivre sans pain. Je me dis, mais non, comment on peut aujourd'hui dire ça alors qu'on a énormément de céréales locales? Comment on peut dire ça alors qu'on ne cultive même pas le blé au Sénégal, c'est importé? Alors, pourquoi aujourd'hui on est dans une situation où on n'a pas de pain, on pense que c'est la fin du monde? C'est grave. Ça veut dire que aujourd'hui le Sénégalais ne sait pas quoi faire avec ses céréales locales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le petit déjeuner typique d'un Sénégalais, on le retrouve rarement dans les foyers. C'est ça que, moi, pour moi, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va pas se dire, ah, tenez, on va revenir aux sources ou on va utiliser ce qu'on a dans nos tiroirs. Et ça, je trouvais ça vraiment dommage. Donc, l'article, c'était vraiment pour montrer que le Sénégalais, avant tout ça, le pain, il mangeait ses céréales là au petit déjeuner. Il avait aussi des petits déjeuners salés à base de, soit de soupe ou de céréales travaillées de manière comme si c'était des potages, en fait. On mettait les grains de couscous dedans. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Et on le retrouve plus. Il y a le namé, donc les haricots cuits avec de la tomate.
Et des œufs aussi, je crois, non?
J'ai rajouté des œufs. Mais voilà, le namé, ça aussi, c'est un petit déjeuner typique. Il y a le tchakri que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a tout type de bouillie fait avec nos céréales, de bouillie de mil, du fognon, comme du porridge. Tout ça, on mangeait ça au petit déjeuner. Donc aujourd'hui, pourquoi on revient pas à ça et on panique parce qu'il n'y a pas de pain?
On est d'autant plus d'accord que non seulement vous vous indignez et en plus vous nous donnez tous les moyens pour pouvoir réaliser un vrai petit déjeuner comme on l'aime et comme on l'a aimé. Alors c'est drôle parce qu'on parlait de ça avec le professeur Massamba Gueye qui est un conteur très connu au Sénégal et il me racontait justement qu'avec ce moment de confinement où le temps s'arrête un peu, on se retrouve chez soi et du coup il retrouvait les petits déjeuners de son enfance. Et donc avec la farine de mil, avec les lards, avec tout ce qu'on prépare et tout ce qu'on mange le matin, et surtout on partageait à nouveau les repas.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Ta, ta de bonne. Dañuy taajo bon ta taajo bon dañuy taajo bon abdu hu jambar ñaari malaika la xawé he ci kaw daanu ci saru Momu monila degam julingam Momu monila degam wonga Momu monila degam julinga Momu monila degam wonga
Tajabon. Tadjabon d'Ismaëlo. Vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes avec Ndaye Aïssé Toumba, militante africaine sénégalaise, gourmande, conteuse des goûts et des saveurs subsahariennes, des trésors cachés. Alors pourquoi, Aïssé Toumba, vous avez choisi cette chanson qui est très belle, très douce, très enveloppante?
Justement, parce que c'est une chanson qui est douce, belle et qui suscite l'émotion. Je pense que ça appelle vraiment à des souvenirs. Moi, ça, en tout cas, c'est une chanson qui me parle et qui nous prend au cœur. Et à la fois traditionnelle, parce que ça parle de Tadjabon, c'est un peu la tradition qui ressemble à Halloween au Sénégal. Et en même temps, c'est des notes modernes. Donc, il a sa guitare, il chante. Donc, je pense que c'est à l'image de mon blog, là. C'est moderne, mais en même temps, on veut vraiment garder le côté traditionnel. Et je dis souvent que le blog, à mon image, c'est entre enracinement et ouverture. C'est à la fois un métissage et à la fois une volonté d'être ancré dans les traditions. Et cette chanson-là, je trouve que ça exprime vraiment l'esprit que je veux donner au blog. L'esprit que je veux donner à ma cuisine, que ça soit une cuisine de l'émotion, ça suscite vraiment l'émotion. J'aimerais que les gens, en passant sur mon blog, aient envie de voyager, qu'ils se rappellent de beaux souvenirs, qu'ils soient émus parfois même en lisant peut-être des choses qui vont leur parler, qu'ils soient contents de se dire « Ah tiens, j'ai découvert telle chose, j'ai appris telle chose, je sais que maintenant je peux utiliser telle chose ». Ça, c'est vraiment ce que je voudrais que les gens vivent en visitant mon blog. Comme cette chanson.
Et vous, alors, du coup, est-ce qu'il y a justement un souvenir comme ça? C'est quoi le goût de chez vous?
Le goût de chez moi? Je ne sais pas pourquoi, mais je fais toujours le lien entre cuisine, goût et souvenir. En plus, on le voit souvent dans mes écritures, je parle souvent de mon enfance, de ma grand-mère. Pour moi, c'est ça, en fait, le goût. C'est quelque chose qui nous transcende, qui nous rappelle forcément quelque chose. Soit un souvenir, c'est une expérience, entre guillemets. On parle de Madeleine de Proust, pour moi, c'est ça vraiment le goût. C'est, on mange quelque chose et on se dit, tiens, on a une émotion et ça nous fait penser à quelque chose. Et ça nous rappelle quelque chose. Moi, j'ai l'impression que je m'accroche en fait à des histoires de goût. Je vais manger, je vais aller quelque part, on va me faire goûter quelque chose. Je vais dire, ah, ça me rappelle ma grand-mère. Ah tiens, ça me rappelle telle ou telle chose, tel événement. Et pour moi, c'est ça. Le goût du Sénégal, c'est des souvenirs d'enfance et de beaucoup de choses comme ça.
Peut-être d'un plat de votre grand-mère, d'une soupe réconfortante, par exemple.
C'est la soupe de ma grand-mère, c'est le quinquali bacho qu'elle faisait au petit déjeuner. Elle mettait du lait et ça avait une couleur rose qui nous faisait rêver. Je trouvais ça génial. Ça changeait du lait tout court ou du chocolat chaud. On buvait un lait rose ou le riz au lait qu'elle ne faisait au goûter. Ma grand-mère, c'était un cordon bleu et même malgré son âge, elle continuait à cuisiner. On ne mourait jamais de faim. Et pour moi, c'est la femme, enfin, c'est moi, c'est mon modèle en cuisine. Elle avait l'air d'une reine quand elle était dans sa cuisine. Elle pouvait, mais avec un rien, elle faisait, de toute façon, ma mère lui ressemble. Mais avec un rien, elle était capable de nous faire un délice et l'adorer les enfants, ses petits-enfants. Donc, c'est normal, c'est une mamie. On prenait tout le temps le goûter chez elle quand on allait là-bas. Et on se retrouvait tous les dimanches. Et donc, ça veut dire que j'ai des souvenirs de tous les dimanches qu'on a pu avoir avec elle, où elle faisait des petits plats.
Précieux souvenirs.
Précieux, oui.
Eh bien, on salue votre grand-mère. Comment s'appelait-elle?
Alors, c'est ma grand-mère maternelle. Elle s'appelait Mame Diarra.
Mame Diarra. En tout cas, j'ai l'impression que ça va de mère en fille, cette histoire-là.
Oui.
Il y a quelque chose, alors on a parlé depuis le début de cette émission de niébé, de moringa, on a parlé de kinkiliba à l'instant, de riz, de plein d'ingrédients. Et il y a toujours une question qui se pose, c'est comment s'appelle cet ingrédient ailleurs en Afrique? Et c'est souvent un problème lexical. On se rend compte que le haricot qu'on aime beaucoup, qui sera le haricot niébé, s'appelle cornille ici, s'appelle coquille là-bas, s'appelle black eyed peas. Et ça, vous avez fait sur votre blog, justement, un point sur, et chez vous, comment ça s'appelle? Est-ce que c'était évident, important, et comment ça a été reçu, cette demande-là?
Pour moi, c'était important parce qu'on avait, l'Afrique, c'est 54 pays. Donc, on est divisé en zones. On peut dire l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, et même de manière générale, le monde. c'est vaste. Et parfois, en discutant, on peut parler du même produit, sauf qu'on ne sait pas qu'on est en train de parler du même produit. Moi, je vais dire niébé parce que c'est ça qui me parle. Et quelqu'un d'autre va dire coquille, ou d'autres personnes vont dire cornier, ou black eyed peas. En discutant avec une Américaine, qui m'a dit, mais je lui ai fait une recette à base de niébé. Elle m'a dit, mais c'est black eyed peas. Je dis, ah, tu connais? Elle me dit, mais oui, on mange ça au sud des États-Unis. Donc, c'est des choses comme ça qui m'ont poussé à faire ce type d'enquête, à me demander, à dire, mais comment on appelle tel aliment dans votre langue, et qu'on puisse faire un croisement et voir qu'on a beaucoup de similitudes entre pays. Le but aussi, c'était de pouvoir transcrire ça dans mon livre, parce que je voulais parler des aliments, et c'était important pour moi de donner les noms dans les langues locales, de dire ça, on le dit, et de pas donner des pays, parce que pour moi, ça voulait rien dire de dire ça, on dit ça au Sénégal, parce qu'au Sénégal, on a plusieurs langues.
Bien sûr.
Donc pour moi, c'était vraiment important de parler en notion de langue et pas de pays. Donc là, je vais dire ça, en Wolof, ce sera niébé, en Peul, ce sera niébé, en Soninké, ce sera molé ou en Bambara chou, par exemple, et dans telle autre langue, ce sera coquille, corni, en français, voilà.
Ce qui est drôlement plus accessible, en fait, ce qui, d'emblée, ouvre en partant du principe des langues et pas des frontières, ce qui recrée, justement, les traditions en même temps, en faisant ça.
Oui, c'est tout à fait ça. Là, on enlève les frontières exactement et on se retrouve à travers et autour de quelque chose qu'on connaît, qu'on a en commun. Et après, c'est plus facile. Dès lors, je trouve qu'on enlève les frontières, les barrières. C'est comme la cuisine, hein. Le fait de présenter les plats. Parce qu'au début, on m'a beaucoup reproché d'occidentaliser la cuisine africaine, ce qui était faux.
Ça, c'est un reproche qu'on fait souvent.
Ce qui était faux pour moi, c'est le contraire même. Je démocratisais la cuisine africaine, enfin la cuisine de mon pays en tout cas, j'essayais de la rendre plus accessible. Et pour moi, c'était le sens contraire. J'africanisais pour moi les autres cuisines. Et j'avais envie juste que quelqu'un qui connaît pas notre cuisine ait envie de venir voir cette cuisine-là juste parce que ça lui parle, ça ressemble à quelque chose qu'elle connaît. C'est tout. Et ça marche généralement. Quand on te propose un gâteau, tout court, j'ai envie de goûter. Mais si je te dis, tiens, je te donne un foufou de manioc, peut-être tu seras moins enclin à goûter, alors que c'est la même chose, tous les deux sont faits de farine de manioc. Hein. Le gâteau que je vais vous présenter à base de farine de manioc sera la même chose que le foufou, par exemple. Et c'est juste des choses comme ça qu'on essaie de proposer pour permettre aux gens de venir à cette cuisine-là. Et quand les gens vont venir à cette cuisine-là, là, maintenant, on peut leur proposer vraiment ce qui est vrai, ce qui est traditionnel. Et je pense qu'ils seront plus ouverts à goûter ces choses-là.
Par exemple, un couscous international.
Oui.
Le couscous sénégalais qui a remporté les championnats du monde du couscous.
Oui.
Et on a découvert que il y avait un couscous sénégalais. Et là encore, vous avez pris votre plume et vous vous êtes indignée. Alors racontez-nous.
Oui, encore. Alors moi, je suis une femme de... Je pense que je suis une... À chaque fois...
Une militante. J'ai utilisé le mot militante à dessein.
Il faut que j'accepte ça, c'est vrai. Mais oui, j'ai écrit cet article après avoir passé, je pense, des heures à lire les commentaires. Au début, je voulais répondre aux commentaires, mais je me suis dit, mais ça sert à rien. Je vais répondre, et là, je suis énervée, donc je vais répondre en écoutant. Enfin, quand on est énervée, de toute façon, on n'est pas...
C'est pas constructif.
Ce qui va sortir, voilà, c'est pas constructif. Ce qui va sortir, c'est pas forcément ce que j'aurais vraiment envie de dire. Donc, je me suis posée, j'ai dit, bon, je vais écrire d'ailleurs l'article avec le point d'exclamation. C'était vraiment pour dire, oui, l'article s'appelait « Oui, on mange du couscous au Sénégal ». Et pour moi, c'était encore une fois important d'expliquer qu'il y avait même une culture du couscous au Sénégal et plus largement en Afrique ou au Sahel, en Afrique subsaharienne du côté du Sahel. Que le couscous, c'était un aliment qu'on mangeait de part et d'autre du Sahara, qu'on soit du côté du Maghreb ou qu'on soit du côté de l'Afrique subsaharienne. Et dire que le Sénégal n'était pas légitime, parce que c'est ça en fait, les gens nous enlevaient cette légitimité en disant « Ah mais retournez à vos mafiasa », parce que c'est ce que j'ai encore lu. Qu'est-ce que vous faites on n'arrive pas à tomber d'accord entre l'Algérie et le Maroc, pourquoi vous venez encore ajouter ? Et pour moi, j'avais juste envie d'expliquer que c'était légitime pour nous de participer à ce concours, parce qu'on a notre propre couscous. Et après qu'on gagne, oui, si notre couscous est bon, pourquoi pas ? On a aussi le mérite de... Voilà, on a tout à fait notre place là-bas.
Absolument.
Voilà. Et donc, dans l'article là, c'était ça. C'était vraiment le but. Et nous, on l'appelle tiré, mais c'est pratiquement le même couscous parce qu'en fait, c'est plutôt par ethnie les types de couscous qu'on va avoir au Sénégal. Les Wolof vont peut-être privilégier à base de sauce tomate, par exemple, les Sérères vont vouloir faire le tiré avec le couscous avec des feuilles de moringa, qu'on appelle le tirimboum. Les Alpoulards, donc les Peuls, vont faire avec les feuilles de moringa aussi, qui vont appeler couscous hako. Enfin, ça dépend. Et il y en a qui vont faire avec des feuilles de chou. Donc, ça dépend des ethnies et de là où on se situe au Sénégal. Mais la base va rester presque la même. Ce sera la farine de mil réduite, enfin, les grains de mil travaillés en farine et roulés d'une manière particulière pour avoir la semoule fine comme ça.
Mais quelle richesse!
Merci.
À chaque fois, je suis étonnée, en fait, de la variété, des déclinaisons, ne serait-ce que dans les méthodes de cuisson également. On va avoir de la vapeur. Ça aussi, vous l'abordez dans les recettes avec toute leur diversité.
Oui, j'étais juste peinée de ne pas avoir trouvé un modèle des anciens couscoussiers, mais je n'ai pas trouvé de photos. Mais je vais continuer à chercher. C'était pour montrer les types de couscoussiers qu'on avait au Sahel.
C'est maintenant, il faut placer un appel, on ne sait jamais.
Si vous avez une photo. Et voilà, pour moi, c'était important aussi de montrer que les techniques étaient différentes. La manière de rouler, de travailler le couscous. Le vrai couscous du Sénégal, ça peut prendre 2 jours. Les femmes prennent presque 2 jours à faire ce couscous-là. Le temps de
rouler les graines, de piler.
Voilà, de piler, de rouler. Elles font fermenter toute une nuit le couscous qu'elles ont roulé avant de cuire ça à la vapeur. Enfin, il y a vraiment tout un travail. Et après, même ça, le fait d'ajouter le baobab, les feuilles, pas la poudre, les feuilles de baobab séchées qui est moulue pour obtenir une poudre qui mélangée avec de l'eau donne ça fait une texture visqueuse. Mais en fait, le but, c'est que ça puisse permettre de manger facilement. C'est comme le beurre qu'on met dans le couscous. Ça rend le couscous plus moelleux.
Un peu comme si on rajoutait des gombos dans la texture.
Exactement. C'est pareil. D'ailleurs, quand on n'a pas la poudre de baobab, on dit qu'on peut rajouter de la poudre de gombo mélangée avec de l'eau.
D'accord. Mais ce ne sera pas tout à fait pareil quand même. Vous préférez lequel?
Alors, la recette traditionnelle, c'est les feuilles de baobab ou de la sève de stéculia. Stéculia aussi, c'est la sève d'une plante qui permet d'avoir cette texture-là visqueuse, la même texture que les feuilles de baobab. Donc, c'est les deux qu'on utilise traditionnellement.
D'accord. Et on est dans quel goût, du coup, pour les séculia?
Alors, les deux sont neutres. La feuille du baobab est un peu plus sucrée, un peu, que la sève de séculia. Mais le goût est neutre, on le sent même pas. On sent juste qu'on a un couscous moelleux, comme si on avait mis du beurre. Et ce qui est ingénieux, entre guillemets, dans cette technique-là, c'est que ça permet aussi d'enrichir le couscous. Je peux dire que la poudre de baobab, c'est l'équivalent de l'huile d'olive. On enrichit le couscous en oligo-éléments. Au-delà de faciliter la consommation, ça a un apport nutritionnel.
Il y a plein de bonnes choses.
Voilà. C'est la même chose que le fait de le laisser au soleil pendant toute une journée aussi. Ça permet d'enrichir aussi en vitamines ce couscous-là.
Donc, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la terre, c'est bon au goût, c'est magique.
C'est magique et c'est sans gluten.
Et c'est sans gluten. Ah oui, alors, parce que ça, c'est une découverte aussi que quand on est en dehors des frontières de l'Afrique, on va dire, on réalise qu'il y a énormément d'ingrédients dans la cuisine africaine qui sont sans gluten. Et c'est pour ça, quand on vient du coup vivre en Europe où on mange plein de pain et plein de gluten, on se sent pas forcément très très bien. Et donc vous mettez en avant justement ces recettes qui sont évidemment sans gluten, dont tout le monde sait qu'elles sont sans gluten, sauf quand on ne s'est pas penché sur la question. J'imagine qu'il y a des gâteaux qui doivent avoir beaucoup de succès et tout ça dans les recettes que vous proposez.
Oui, donc le gâteau, je crois qui a le plus de succès, c'est le gâteau à base de farine de mil, c'est le gâteau Dougoup, quand je l'appelle, Dougoup mil en Wolof. Oui, c'est vrai, quand je suis arrivée en France, les premières années, il y avait beaucoup de ballonnements parce que je mangeais beaucoup de féculents et qui n'étaient pas sans gluten. Pourtant, au Sénégal, on adore le blé. Hein. C'est connu, les Sénégalais, on mange du pain.
De la baguette au petit déjeuner avec un peu d'omelette.
Voilà, de la baguette. Donc, je pense que nous, encore, ça va. Mais ceux qui ne sont pas de la ville et qui sont plutôt des villages ou qui sont encore ancrés dans les traditions, qui mangent de vrais petits déjeuners sénégalais, ils ont plus de problèmes à s'adapter par rapport à ce régime alimentaire-là. Et même, c'est connu, par exemple, que d'autres ethnies, à part les Peuls au Sénégal, parce que les Peuls boivent beaucoup de lait. Ils ont l'habitude, c'est dans leur gène. Par contre, il y a des peuples au Sénégal qui sont intolérants au lactose, par exemple, qui ont du mal avec le lait, qui sont intolérants au lait. Mais ça aussi, c'est dans leur gène. Ça veut dire que depuis... Ils n'ont pas l'habitude, le lait, pour eux, leur organisme a du mal à l'assimiler. C'est la même chose pour le gluten, pour beaucoup de peuples en Afrique. Et je pense qu'on devrait revoir ça, parce que c'est vrai qu'il faut manger local et tout, mais il faut aussi manger ce que son corps accepte. Donc, si on a des problèmes à assimiler le gluten ou le blé, parce que c'est pas dans nos gènes, il faut essayer de retourner aux sources et voir ce que notre corps a l'habitude de manger.
Et oui, puisque notre santé est dans notre assiette.
Exactement.
Alors, évidemment, on trouve aussi des recettes de cuisine de rue. Alors, il y a le sacré dibi, le dibi terrible.
Oui.
Alors, même à la maison avec un four, parce que normalement, le dibi, c'est de la viande grillée, c'est ça?
Oui, c'est une viande, en fait, grillée, mais la technique, c'est qu'il y a, ce qui est original, c'est que c'est deux types de cuisson. D'abord, c'est en papillote. D'ailleurs, ils font la même chose. C'est cuit en papillote dans des fours un peu traditionnels au Sénégal, dans des fours à feu de bois. Après, c'est grillé. Donc, on ouvre le papier, donc ce qu'on appelle papier ciment au Sénégal. C'est les papiers craft là qu'ils utilisent pour faire le dibi. Et après, c'est grillé. Donc, ça, c'est la deuxième méthode de cuisson. Donc, c'est le deuxième temps où on fait griller. Et généralement, là, à travers cette recette-là, c'était de dire qu'on peut remplacer qu'on n'a pas de barbecue, qu'on n'a pas de charbon ou de feu de bois parce que on est dans des appartements comme moi. Là, on peut le faire avec son four. Et puis avec une petite astuce de maman, comme je dis, parce que nos mamans, elles sont très ingénieuses. Elles ont tout le temps des astuces. J'appelle ma mère système D, elle est toujours dans la débrouille. Elle a toujours une astuce pour tout. Et voilà. Et donc l'astuce était de faire brûler du papier sulfurisé, donc de mettre la viande qui a cuit en papier puis grillée au four dans une marmite. Et de mettre un bol en inox, parce qu'il faut éviter de brûler aussi la maison. Donc, un bol en inox et mettre le papier sulfurisé qu'on allume. Et là, on ferme la marmite ou la cocotte. Comme ça, le papier qui va brûler va parfumer.
Va donner ce petit goût fumé qu'il y a sur la grillade, mais pas dans son four à la maison, heureusement.
C'est ça.
Vous faites aussi des ateliers de cuisine. Alors, il y en a notamment un qui est un atelier de séduction.
Oui.
Alors là, il faut nous en toucher deux mots quand même.
Oui, alors je donne des ateliers, je fais des ateliers culinaires. Et cet atelier-là, c'était en partenariat avec une femme qui fait un peu du coaching de séduction à la sénégalaise. Et au Sénégal, on dit tout le temps l'homme, on le tient par le ventre et le bas-ventre. Et donc, je me suis dit, ce serait intéressant d'avoir les deux types, ces deux-là, donc la cuisine et une séduction, parce que la séduction à la sénégalaise, c'est tout un mythe. Les gens disent, ah, les sénégalais sont dangereuses et tout. Pour moi, c'était dire aux gens, voilà, parce que, et surtout expliquer ce qui était la séduction à la sénégalaise, parce que, il y a tout un numéro de séduction, en tout cas traditionnellement, qu'on fait à partir de 17h, comme on dit, taksan au Sénégal, où la femme est apprêtée et fait voilà, est apprêtée et elle commence à cuisiner avec une belle tenue. Donc ça commence à 17h, il y a tout un numéro de séduction, voilà, qui commence à 17h ou après elle va cuisiner ou après la cuisine. Elle va servir du jus de gingembre, par exemple. C'est tout ça. Donc, c'était vraiment pour montrer en quoi la cuisine pouvait jouer dans la séduction, voilà, à la sénégalaise. Donc, il y avait le fait de donner un type de jus particulièrement à un moment de la soirée, le but de servir tel plat, par exemple, le plat préféré de monsieur. Enfin, voilà, tout un numéro. Et voilà, c'était un clin d'œil, voilà, tous les gens qui disent, mais qu'est-ce qu'elles ont, les Sénégalaises?
Non, mais dites-nous, juste entre nous, hein, entre vous et moi, juste pour savoir si c'est une première rencontre, par exemple, quel plat? Est-ce qu'il y a un plat qui fait tomber tous les hommes?
Non, je pense pas qu'il y a un plat qui fait tomber tous les hommes. Je pense qu'il faut connaître son homme et savoir le plat qui le fait tomber. C'est un peu ça. Qu'ils sont tous différents. Chacun a ses, chacun a ses goûts. Par contre, le jus de gingembre, ça marche.
Du monde. Clémence de Navi.
Sur RFI, bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde.
Aïe, c'est tout. Il y a évidemment, on en a parlé tout au long de l'émission, ces goûts, ces saveurs dont vous avez fait un livre. Donc vous poursuivez cette transmission.
Oui.
Vous êtes vous-même maman.
Oui.
Vous avez un fils. Comment est-ce que vous faites pour poursuivre cette transmission avec votre fils?
Alors mon fils, il adore la cuisine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non seulement il adore la cuisine, mais c'est un gourmet, c'est-à-dire les choses qui marchent chez les autres enfants, qu'on dit oui, il faut essayer de dissimuler dans le gâteau, non, ça marche pas avec lui. Il arrive, dès que la couleur change, la texture change, il sait que c'est pas ça. Tout de suite, il sait que c'est pas ça. En tout cas, par rapport à la transmission, je cuisine depuis qu'il a 2 ans, je cuisine avec lui. Et quand il était bébé, je cuisinais avec lui, il était sur mon dos. Donc, je peux dire qu'il a l'habitude de sentir un peu les odeurs de cuisine. D'ailleurs, à la crèche, il me dit souvent qu'ils ont du mal à le faire manger. Et même, il me demande parfois, mais vous lui donnez quoi à manger? Il mange pas. Bon, il a pas un grand appétit, mais il a vraiment, enfin, je veux dire qu'il a du goût. Je pense que depuis, c'est parce que depuis qu'il est né, il est dans la cuisine avec moi, que ce soit sur le dos ou à côté. Là, il cuisine avec moi. Bah, on fait souvent des gâteaux. Quand je cuisine, il m'aide à couper, même s'il coupe pas bien, mais il est à côté. Souvent à côté. Et on apprend, par exemple, j'essaie de lui apprendre comment on dit tel aliment. Pour le moment, il mélange le français et le wolof.
Oui.
Donc, il y a des aliments qu'il va choisir de dire en français, d'autres qu'il va choisir de dire en wolof, par exemple. Les œufs, c'est difficile pour lui. Il préfère dire nen en wolof. Enfin, les œufs, ça veut dire nen en wolof, un œuf.
Donc, c'est plus facile, effectivement, que les œufs.
C'est plus facile pour lui. Voilà, un œuf, c'est dur à dire pour un enfant. Donc, lui, il va choisir donc des mots. Il y a des mots qu'il va me dire en français et d'autres mots qu'il va me dire en anglais. Mais c'est super intéressant parce que ça permet en même temps de nommer les aliments avec l'enfant. Ça permet aussi à l'enfant de connaître, je pourrais dire, sa culture, même si c'est tôt. Mais il sait qu'on mange ça ou ça à la maison.
C'est une initiation à la culture et au goût.
C'est une initiation, exactement. Ouais. Et même le fait de manger, parce qu'on mange parfois à la main, à la maison, il apprend à manger à la main, il mange aussi à la cuillère. Donc, c'est des choses pour moi qui sont importantes, hein, qu'il soit vraiment, au moins, qu'il soit ancré dans sa culture.
Dans sa culture. J'allais vous poser la question, on mange à la main. Ça, c'est un trait de caractère très important. Qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça vous apporte de manger à la main? Parce que nous, peuple de fourchette, enfin moi, fille de fourchette, j'apprends maintenant. Donc, il est sûr que c'est une sorte de sensation qui est assez indéfinissable en réalité, j'ai l'impression.
Oui, on dit souvent que c'est beaucoup mieux à la main. On peut même pas expliquer. Je crois que c'est ineffable, mais on peut pas dire. Mais peut-être le contact, le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre la nourriture et nous, le fait de sentir. Parce que quand c'est chaud, on le sent. On sent la température de la nourriture. On sent tout, en fait, quand on mange avec la main. Mais moi, c'est surtout que c'est, pour moi, c'est synonyme de partage.
Oui.
On mange tous autour d'un plat unique. Et il y a des règles, même si on respecte plus trop ça. Il y a des règles. Traditionnellement, l'hôte, enfin, la personne qui accueille est la maîtresse de maison. C'est la personne qui va, quand on est invité, hein. La maîtresse de maison, c'est la personne qui va couper pour tout le monde.
D'accord.
Si la viande est au milieu, quand on est invité, on va pas aller s'amuser à aller au milieu pour couper de la viande. Hein. C'est la maîtresse de maison qui coupe pour chaque personne le morceau. C'est la même chose quand on est dans une famille, c'est l'aîné, donc c'est la personne le plus âgée qui va couper. On parle pas quand on mange. On tient le bol parce qu'il faut pas que le bol se balade dans tous les sens. Le plateau, c'est mal poli.
D'accord.
C'est mal poli aussi de manger vite. Enfin, il y a beaucoup de règles qu'on a perdues. Là, maintenant, on discute, on raconte sa vie, on raconte sa journée. C'est convivial aussi. Mais avant, on parlait, les gens parlaient pas qu'on mangeait. C'est comme si on respectait pas la nourriture.
D'accord. Ok. Donc, c'est tout ça. On mange silencieusement, en prenant le temps dans le calme, pour justement apprécier.
Voilà. On apprécie, on partage. Ça veut dire là, on sent vraiment le sens du partage. La personne va répartir les morceaux de viande. On se rue pas devant ce qui est au milieu. On laisse pour les autres. Enfin, il y a vraiment beaucoup de notions à apprendre sur le fait. C'est une notion de partage, d'esprit d'équipe, qui bah, malheureusement, je pense qu'on a perdu ça. Donc moi, je mange à la main quand on mange autour du bois parce que généralement, c'est moi la maîtresse de maison. Je coupe pour tout le monde. Par contre, parfois, il y a des repas qui sont moins faciles à manger, comme la soupe, c'est pas possible.
Oui.
Et d'autres plats, on mange individuellement avec son assiette ou son bol.
Mais un bon poulet au vermicelle, on est tranquille.
Oui, là, tout le monde met la main.
On arrive déjà à la fin de cette émission. Tradition oblige, en tout cas celle du goût du monde, petite tradition. Je vais vous demander de partager avec nous un ingrédient et un ustensile. Alors, de quel ingrédient voulez-vous parler?
Ah, un ingrédient...
Il faut choisir, mais pas forcément, parce qu'on peut en dire d'autres après.
Si on me demande un ingrédient, pour moi, qui est indispensable dans ma cuisine, je dirais tout bêtement l'oignon.
Vous êtes sénégalaise.
En bonne sénégalaise, c'est vrai, on adore les... Je ne sais même pas si je peux cuisiner sans oignon. On en met partout. Pilé, coupé, écrasé, à toute forme, mais on met dans toutes nos sauces de l'oignon. Enfin... Pour moi, c'est l'indispensable dans ma cuisine. Je peux sortir voilà, à 6h du matin, chercher de l'oignon si j'en ai pas, si on me demande de faire un plat. Donc voilà, je dirais l'oignon.
Oignon frais, on est d'accord? Ou ça peut être un oignon aux poudres ou grillé?
Oui, frais. Oignon frais, coupé, parce que c'est pas la même chose. Hein. Le jus d'oignon, qui est le jus qui sort de l'oignon, c'est ça qui donne le goût.
D'accord.
D'ailleurs, le nocas, c'est de l'oignon écrasé avec... voilà.
Absolument. On n'a pas parlé des nocos, très important pour vous également. Alors, le nocos, c'est la pâte qui va permettre de donner du goût. Alors, ce qu'on a traduit, ce fameux bouillon dont on veut se séparer, hein, on est d'accord?
Exactement.
Alors qu'on a dans le nocos, plusieurs types de nocos, dont vous donnez les recettes d'ailleurs, avec des goûts qui vont parfumer vos plats et pas besoin d'industriel. On est d'accord?
Oui. C'est ça, on est d'accord. Et dans la même logique, bah, la ginocas, si on me demande un instrument, un ustensile, je dirais le pilon et le mortier.
Eh ben voilà.
Pour faire le nocas. Et c'est surtout, je trouve que ça n'a rien, enfin, le goût est différent. Je trouve que le fait d'écraser les aliments, ça fait sortir leur jus, leur saveur. C'est pas la même chose que quand on essaie de les hacher. Je vous donne toujours l'exemple du mojito.
Oui.
Quand on fait un bon mojito, on hache pas la menthe, on pile la menthe, c'est pas pour rien. Et c'est la même chose quand on veut faire un bon assaisonnement, il faut bien piler les aliments. Donc voilà, je dirais le pilon.
Un pilon, moi je dis merci. Merci beaucoup Aïssatou, merci.
Et avec plaisir.
Merci Aïssatou pour ce partage. Aujourd'hui dans le goût du monde et tous les jours sur votre blog et les réseaux sociaux. On mettra les liens pour vous suivre sur la page de l'émission et une ou deux recettes bien sûr dont nous avons parlé. Et vous, avez-vous fait des découvertes? Y a-t-il des ingrédients, des plats que vous connaissez dont vous souhaiteriez parler? Racontez-nous, écrivez-nous, parlez-nous sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp. On adore vous lire. Merci beaucoup à Cécile Bonici qui a réalisé et mis en onde ce goût du monde. On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.